Alors, je m'appelle Greg Dubos. Je suis ingénieur système au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. Donc, c'est le centre de la NASA qui s'occupe de la plupart des missions robotisées d'exploration du système solaire.
Quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, j'ai d'abord fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait prépa, classe préparatoire, maths sup, maths spé. Et puis j'ai intégré une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs d'aéronautique Supéro, qui maintenant s'appelle également l'ISAE, à Toulouse. Et j'ai ensuite obtenu mon Master of Science en ingénierie aéronautique, aérospatiale, au Georgia Institute of Technology, qui est à Atlanta, aux États-Unis. Et puis j'ai continué en faisant une thèse de doctorat, ou un PhD, ça s'appelle comme ça, aux États-Unis, toujours en aérospace engineering, dans la même université, à Georgia Tech.
Quel a été votre parcours professionnel?
Alors, au cours de mes études, j'ai d'abord essayé de faire plusieurs stages pour être un peu exposé à cet environnement professionnel. Donc, d'abord au centre de l'Agence spatiale européenne ESOC à Darmstadt, en Allemagne. J'ai fait également un stage au NASA Ames Research Center, qui est à Mountain View, près de San Francisco. Et puis également dans l'industrie, dans une entreprise qui s'appelle Ball Aerospace, qui est basée à Boulder, dans le Colorado. Et puis après avoir terminé mon doctorat, j'ai été embauché à temps plein à JPL en tant qu'ingénieur. Et ça fait maintenant 10 ans que j'y travaille. Alors d'abord, j'ai commencé j'ai passé quelques années en conception préliminaire de mission. C'est là où on évalue beaucoup de concepts différents et puis on essaie de les faire mûrir rapidement pour voir quels concepts sont les plus prometteurs. J'ai par exemple vu les premières ébauches de la mission Psyche, qui devrait maintenant être lancée d'ici à peu près un an et qui devrait étudier l'astéroïde Psyche. Et puis après ces quelques années de travail en conception préliminaire, j'ai travaillé sur les opérations de surface du rover Curiosity. J'ai fait ça pendant quelques années. J'étais essentiellement dans l'équipe de commande, l'équipe qui prépare les instructions pour le rover et qui travaille avec les scientifiques pour déterminer où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire comme activité. Et puis j'ai poursuivi après mon aventure martienne en travaillant sur le projet Mars 2020, donc avec le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity. Donc c'était d'abord au sein de l'équipe du système de vol. Ça, c'était pendant la phase de vérification et de test. Et puis ensuite dans l'équipe d'opération pendant le voyage vers Mars, l'atterrissage et puis les opérations de surface. Et maintenant, dernière chose, donc je travaille également sur la mission Europa Clipper, qui est un orbiteur qui a pour but d'explorer une des lunes de Jupiter, qui s'appelle Europe, et qui devrait être lancée en 2024.
Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial?
Alors, je dirais que c'est difficile d'identifier une seule rencontre qui aurait tout changé, mais je dirais qu'il y a différentes interactions que j'ai eues, notamment en école d'ingénieur avec des professeurs comme Sylvestre Maurice, qui travaille sur le côté français avec des rovers martiens avec Supercam et CamCam. Et puis également des astronautes comme Philippe Perrin, Jean-François Clairvoy, et donc. C'est ce qui m'a encouragé à poursuivre dans cette voie.
Très bien. Pouvez-vous nous faire part de deux ou trois belles expériences que vous avez vécues au sein du JPL depuis le début de votre carrière, qui est quand même plus de 10, à peu près 10 ans, c'est quand même très très riche.
Alors, je dirais la première qui me vient à l'esprit, parce que c'est aussi sans doute la plus récente, c'est évidemment l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars, donc le 18 février 2021. J'avais la chance d'être en salle de contrôle au poste avionique et donc l'ambiance était un petit peu particulière parce que le nombre de places avait été limité de manière drastique, hein, puisqu'on était en plein pic de pandémie de Covid à Los Angeles. Et après avoir travaillé des années sur le projet et puis avoir pris soin du véhicule pendant les 6 mois et demi de voyage vers Mars, le voir atterrir avec succès, C'était sans doute plus émouvant même que ce que j'avais pu imaginer. J'ai encore des frissons quand je revois les images, notamment les images du Sky Crane au moment de l'atterrissage. Ces vidéos sont exceptionnelles. Et donc, on était un peu sur un nuage. Le président Joe Biden nous a appelés après en vidéoconférence. Je crois qu'on était tous très fiers d'avoir pu relever ce défi technologique et humain dans une période aussi difficile. Je crois que ça a un peu remonté le moral de tout le monde d'assister à ce succès. Donc ça, c'est clairement sans doute à ce jour l'expérience la plus marquante et heureuse de ma carrière à JPL. Et puis il y a également toutes les premières fois que cette mission a réalisé. Par exemple, le premier vol d'hélicoptère Engine Mutiny. Donc c'était magique de voir ça également quand on a reçu la vidéo et qu'on pouvait voir ce petit robot en suspension au-dessus d'une autre planète. C'était extraordinaire. Et puis alors un peu la cerise sur le gâteau, c'est on a la chance d'être pas loin d'Hollywood, pardon. Et donc, on a des rencontres un petit peu amusantes. On a souvent des visites de personnalités comme James Cameron, Will.i.am. J'ai rencontré des équipes de séries télévisées sur l'espace également. Donc, c'est toujours assez marrant de voir comment ils perçoivent ce genre de notre profession, quoi, à travers leur vision d'artiste.
C'est une vision inspirante de toute manière, le spatial, et surtout dans l'esprit et la mentalité hollywoodienne.
C'est sûr, c'est sûr. Et c'est marrant, par exemple, au moment du tournage, ou peut-être c'était après le tournage du film Seul sur Mars. Donc, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont passées. Matt Damon est venu également. Et puis, en voyant le film où JPL est présenté dans le film, c'est toujours drôle de voir comment le centre est présenté, beaucoup plus futuriste et que les locaux qu'on a, mais c'est toujours marrant.
Alors, le JPL reste incontestablement le leader mondial sur la réalisation des rovers dédiés au système solaire et plus particulièrement de la Lune et de la planète Mars, ainsi que les lunes de Jupiter. Nous avons suivi avec attention incontestablement le rover Persévérance depuis son atterrissage le 18 février 2021. Où en est-on aujourd'hui? L'ensemble des instruments fonctionnent-ils correctement?
Alors aujourd'hui, là donc fin octobre 2021, on vient de sortir de la première, ce qu'on appelle conjonction solaire, qui a duré à peu près 3 semaines. C'est une période pendant laquelle on ne pouvait pas vraiment communiquer de manière fiable avec le rover parce que Mars était de l'autre côté du Soleil. Donc là, on est de retour et le rover est de retour avec l'hélicoptère Ingenuity, donc il fonctionne correctement. Donc, il n'y a pas vraiment de problème particulier à mentionner. Il y a toujours des petites anomalies de temps en temps qui arrivent par-ci par-là, qu'il faut surveiller, qu'il faut débugger, mais rien vraiment qui n'empêche les opérations prévues par la mission. Donc, le rover en lui-même se porte bien, les instruments se portent bien. J'ai même tendance à penser qu'on a eu moins de problèmes sur la surface jusqu'à présent que ce qu'on a vécu dans les premières semaines qui ont suivi le lancement, où on n'a pas eu de problème majeur, mais il y a eu quand même des surprises et il fallait vraiment réagir et on venait de se lancer, donc il fallait faire très attention. Il y a eu quand même des surprises. Hein. Mars nous donne toujours des surprises. La première tentative d'extraction, par exemple, de l'échantillon du sol, cette carotte, qui au premier coup a révélé un tube qui était vide. Donc ça a un peu surpris tout le monde. On a eu quelques sueurs froides, mais au final, on a compris que c'était il n'y avait rien de sérieux et on a retenté l'expérience ça a fonctionné. Et puis, donc voilà, globalement, tout se passe bien.
Au niveau des récoltes de données, même si on est au début de la mission SOL, est-ce qu'on a des données d'un point de vue quantitatif, mais surtout qualitatif, les données que vous récoltez actuellement?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que, bon, en termes de quantité de données, il n'y a pas vraiment de problème, on n'est pas limité. Enfin, On est limité par la loi de la physique et par les orbiteurs qui nous retransmettent les données, par tout un tas de contraintes d'ingénierie, etc. Mais globalement, on reçoit les données comme on l'espérait, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Donc, on a énormément de données. Chaque jour d'activité ou sol nous crée un trésor de données qu'après les scientifiques analysent selon les activités qui ont été effectuées. Donc ça, c'est d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas de problème, on a beaucoup. Et puis qualitativement, bah alors là, il faudra attendre les différentes études qui sont publiées par les scientifiques pour aller vraiment au cœur de ces données, les analyser. Donc, je ne peux pas vraiment répondre en détail, mais globalement, pour l'instant, c'est une réussite. Il s'avère qu'il y avait de l'eau, que l'environnement de G0 est un environnement qui était sans doute habitable et que le choix de ce cratère était vraiment un bon choix pour cette mission. Donc, après, les analyses qu'on va faire par la suite vont nous donner plus d'informations. Même avant les analyses, on a toutes ces images, ces vidéos qui nous donnent beaucoup d'informations et puis qui nous émerveillent, quoi. Donc ça, on l'a tout de suite, rapidement. Elles sont disponibles d'ailleurs sur Internet pour le grand public très, très rapidement. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On est content de toutes les données qu'on a reçues.
Très bien. Le rover possède 23 caméras. Pourquoi autant de caméras? Est-ce sur le même principe du tableau de bord d'un avion où la plupart des boutons des interrupteurs sont doublés par simple sécurité ou ont-elles toutes une fonction bien particulière?
Alors oui, toutes les caméras ont une fonction particulière. Vous avez par exemple les HazCam qui sont des caméras qui regardent plutôt vers le sol pour voir des obstacles. Vous avez les Navigation Camera ou les NavCam qui regardent plus au loin dans la distance pour que les pilotes du rover puissent planifier le prochain itinéraire. Et puis on a les caméras qui sont sur les instruments, MassCam, SuperCam, CacheCam, qui ont vraiment des buts un peu différents. Et puis on avait les EDLCam, qui étaient ces caméras donc au moment de l'entrée, de la descente dans l'atmosphère et de l'atterrissage. Mais c'est vrai que sur certaines caméras comme les HazCam, les NavCam, on en a souvent deux. Parfois elles ont des. Donc, ça nous donne un certain degré de redondance s'il y en a une qui ne marche pas, mais elles ont souvent des caractéristiques un petit peu différentes. Donc, c'est un peu les deux, en fait.
Très bien. Alors, concernant le démonstrateur, l'hélicoptère Ingenuity, depuis sa présence sur Mars, combien a-t-il effectué de vols?
Alors, à ce jour, je crois que ça fait à peu près donc 13 vols qui ont été effectués là jusqu'à la conjonction solaire. Les prochains vols, d'ailleurs, devraient utiliser des vitesses de rotation plus élevées parce qu'on a des changements saisonniers sur Mars qui font que la densité atmosphérique en ce moment est plus faible. Et donc, il va falloir faire tourner les pales plus vite. Mais on espère continuer. Au départ, on pensait avoir que 5 vols pour Ingenuity. Et là, on en est déjà à 13 vols. Donc, c'est une grande réussite.
C'est pas mal, oui. C'est clair. Du fait de la faible densité de l'atmosphère de Mars par rapport à celle de la Terre, l'ensemble des vols du démonstrateur que représente Ingenuity sont-ils des réussites? En d'autres termes, sont-ils concluants et pourquoi?
Ah bah, donc je dirais que ça a absolument été une réussite, hein. C'est le premier engin à faire un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Et donc on parlait un petit peu de densité atmosphérique. La densité de l'atmosphère sur Mars, elle est 1%, moins de 1% de celle de la Terre, ce qui rend donc la génération de portance aérodynamique extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle Ingenuity a été muni d'une paire de rotors à pales en fil de carbone, donc légères, mais qui sont plus grandes et qui tournent beaucoup plus vite que si elles étaient utilisées sur Terre. Alors, les implications de cette première avec Ingenuity, elles sont grandes, hein, ça ouvre la voie à une nouvelle classe de robots qui pourront explorer Mars et d'autres planètes. en rendant accessible cette dimension aérienne qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on peut maintenant avoir des engins volants qui vont travailler en tandem avec des rovers, par exemple, ou même des humains, et qui peuvent aller explorer des régions qui sont plus difficiles d'accès. Ingenuity, maintenant, a déjà parcouru plus de 2 km, ce qui est quand même énorme déjà. Et on espère que maintenant que cette première démonstration technologique a été un succès, on espère que la prochaine génération d'engins d'hélicoptères comme Ingenuity pourra être plus lourde et embarquer, par exemple, des instruments scientifiques.
Alors, la température moyenne de Mars est de l'ordre de moins 50 degrés. Pouvez-vous nous présenter son système d'isolation qui permet de maintenir le rover à bonne température?
Alors, d'abord, la nuit, la température peut même descendre plus bas, hein, jusqu'à moins 90 degrés Celsius, donc c'est effectivement extrêmement froid. Alors, Ingenuity, il a des radiateurs, enfin, ce qu'on appelle des heaters en anglais, pour le tenir chaud. Et puis, il a un système, évidemment, donc, d'isolation thermique pour garder les équipements électroniques au chaud. Ces équipements, ils sont logés dans une boîte qui est au centre de l'hélicoptère. Donc, le but, c'est de les garder à des températures qui sont les températures auxquelles ces équipements électroniques peuvent fonctionner correctement. Et puis, l'isolation, elle est faite notamment avec des films, avec un matériau qu'on appelle capton. Ces films qui sont également censés absorber la chaleur du soleil dans la journée. Et puis, il y a du gaz, du dioxyde de carbone, qui aide à l'isolation et qui évite à ce que cette chaleur ne s'échappe, elle se dissipe à l'extérieur de la boîte, donc pour garder tout ça au chaud. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Alors, quel est le programme prévu avec les équipes du JPL pour les prochains mois?
Alors, pour la mission de mars 2020, donc Perseverance et Ingenuity sont actuellement au sud d'une région qui s'appelle la Salta, ou Ceuta, je ne suis pas vraiment sûr de la prononciation, mais on va... Une fois que l'exploration de cette région sera terminée, on va retourner vers le nord, un peu là où on atterrit. Et puis après, on va donc continuer encore vers le nord. On va se diriger vers l'ouest du cratère G0. Alors là, il va y avoir une campagne scientifique pour continuer à comprendre le contexte géologique du plancher du cratère G0. Et puis chercher des preuves que l'environnement était habitable. Ou même des biosignatures, donc ces traces de vie passée au sein de ce cratère. Et on va également continuer la collecte d'échantillons. Et puis après, donc ça c'est dans les mois à venir, et puis un petit peu plus tard l'année prochaine, si tout se passe bien, le but c'est d'embrayer avec une nouvelle phase de cette campagne qui va être d'aller vers le delta, se rapprocher du delta, donc de cette rivière qui vraisemblablement coulait et se jetait dans le cratère de G0. Donc ce sera dans le courant de l'année prochaine, et c'est de continuer à faire ce type d'investigation de géologie, comprendre l'environnement de ce delta, voir s'il était habitable, chercher des biosignatures également, et puis également des échantillons qui seront collectés.
Alors, pour finir, que conseillez-vous aux jeunes intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
Alors, je sais que je n'ai pas besoin de les encourager pour continuer à travailler dans le domaine scientifique, donc là, il n'y a pas de problème. Je dirais que je leur conseillerais de ne pas rester cantonné à un seul domaine et d'être ouvert à d'autres disciplines. C'est, à mon sens, c'est indispensable au sein même du secteur scientifique. Maintenant, les systèmes complexes soit qu'on étudie ou qu'on conçoit, ils font appel à une multitude de disciplines. Par exemple, en mécanique ou dans les domaines de mobilité, on s'inspire de plus en plus de la nature. Et donc, avoir des connaissances biologiques, je pense que ça permet d'insuffler des idées nouvelles. Je suis convaincu que c'est à la croisée de différents domaines qu'on fait les plus grandes découvertes. Et puis, je dirais, de manière plus générale, je conseillerais de ne pas négliger d'autres disciplines, y compris non des disciplines non scientifiques. Travailler dans les sciences aujourd'hui, dans les techniques, c'est faire partie de la communauté internationale. Et donc, maîtriser des langues étrangères, être un bon communicant, savoir bien travailler en équipe, c'est absolument essentiel.
Les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Alors, l'aventure scientifique, je dirais qu'elle est rarement l'histoire d'un individu. Alors, c'était peut-être vrai, c'était peut-être le cas au XVIIIe siècle et encore, mais je crois que ça n'est vraiment plus maintenant. Et c'est essentiel que les gens qui s'intéressent aux sciences aient la possibilité de rencontrer d'autres amateurs, d'échanger, de progresser ensemble. Et je pense que les associations scientifiques et techniques, elles sont indispensables pour jouer ce rôle. Et puis, elles permettent également d'aller à la rencontre du grand public, ce grand public qui n'aurait pas forcément l'occasion d'être exposé à de tels sujets scientifiques. Et donc, grâce à ces associations, le public peut rencontrer d'autres passionnés, ce qui peut aider à susciter l'intérêt général pour des questions scientifiques. Et puis même, je pense éveiller de nouvelles vocations. Donc, à mon avis, c'est clair que ces associations ont un rôle extrêmement important actuellement.